Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h40, on défait le monde maintenant dans RTL Soir avec la bande Cyprien Cini, Céline Landreau, Laurent Tessier. L'info autrement, avec un autre regard jusqu'à 19h. Le menu Cyprien.
Ce soir, on défait l'angoisse collective autour des piqûres en soirée. RTL vous révélait ce matin que près de 1000 plaintes avaient été déposées. Et malgré tout, les enquêteurs piétinent. On va décrypter ce phénomène étrange. Au menu également, les blessures les plus stupides des footballeurs. Et après le Vendée Globe, direction le sommet de l'Everest pour Maxime Sorel, le marin. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Avec le son du jour.
L'étrange vague de piqûres s'étend sans aucune explication jusqu'ici.
9 jeunes affirment avoir été piqués.
Au bras, à la cuisse, dans la fesse.
Les analyses toxicologiques n'ont jamais donné de résultats probants.
Étonnant phénomène lors de soirées festives, des jeunes qui se font piquer et des enquêtes qui piétinent sévèrement. Près de 1000 plaintes ont été déposées. Alors, pour être très factuel, comme l'expliquait l'excellent Guillaume Chiez du service police-justice de RTL ce matin.
Il y a bien dans la majorité des cas des traces qui peuvent laisser penser qu'il s'agit de piqûres. Certaines victimes se sentent également pleines de malaise. À part les deux hommes placés en détention provisoire à Toulon, la plupart des gardes à vue dans ces affaires se terminent sans aucune poursuite judiciaire. Aucun enquêteur n'est capable de dire si l'on fait face à un réel phénomène, à un effet de mimétisme ou à une simple psychose collective.
Et on précise que toutes les analyses toxicologiques effectuées sur les victimes n'ont rien révélé d'anormal. On a donc voulu comprendre comment un fait réel et isolé, à savoir une vraie piqûre lors d'une soirée, est devenu un véritable phénomène qui crée une angoisse collective dans toute la société.
Peut-on réellement parler de psychose? Quelle est la part de réel dans cette affaire? Et pourquoi le phénomène prend-il une telle ampleur?
Pour le savoir, on a contacté Thomas Archijewski. Il est chercheur en psychologie sociale à l'université d'Aix-Marseille. Et dans cette affaire de piqûre, on ne peut pas parler de psychose collective.
Une psychose, c'est une pathologie mentale. Là, on n'est pas dans la pathologie mentale. Ces gens-là n'ont pas de problèmes mentaux. C'est pour ça que je préfère peur collective, angoisse collective, anxiété, si vous voulez, qui ne relève pas du pathologique, mais du fonctionnement normal de l'être humain et de sa gestion de son environnement.
Et cette peur collective, donc, comment l'expliquer? Parce qu'il y a énormément de plaintes qui, finalement, ne débouchent sur rien.
Eh bien, parce qu'il y a une surinterprétation de la situation par notre cerveau, vous allez comprendre.
Un vrai risque au départ de santé. Notre cerveau, dans ce cas-là, il va évaluer la situation future. Et la situation future, elle est potentiellement dangereuse. On a un organe dédié, l'amygdale, qui est dédié à la gestion de la peur et qui est dédié à notre protection. Et dans le doute, on va surestimer, simplement. C'est-à-dire cette hypervigilance va augmenter le nombre de faux positifs. C'est-à-dire ces gens-là, dans d'autres circonstances, auraient peut-être été piqués ou ressenti une piqûre et ne l'auraient absolument pas attribué à une intention malveillante. Ils auraient juste constaté qu'ils avaient une piqûre à l'épaule, ça serait arrêté là. Mais du fait de ce climat particulier, il y a un certain nombre de choses qui seraient passées totalement inaperçues, qui vont se mettre à exister.
Et donc, dans ce contexte, certains prennent un plaisir malsain à piquer avec des seringues, mais aussi des trombones, des punaises ou je ne sais quoi, pour surfer sur cette angoisse collective, un phénomène finalement assez banal.
Je dirais que c'est tristement classique. C'est des gens qui vont se saisir d'une situation pour s'en amuser, pour exagérer la situation, pour provoquer des réactions. Et c'est la technique du pyromane qui allume un incendie et qui le regarde flamber. Donc là, ils sont très très contents de leur effet. Ça leur donne momentanément une petite importance dans les informations. On parle d'eux. C'était moi qui ai piqué là, à cet endroit-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce truc de l'interdit où on va piquer les gens dans une boîte de nuit, on va observer l'effet que ça produit. C'est assez satisfaisant. C'est une activité à risque comme une autre. Après, l'émotion, les rumeurs sur Internet, la démultiplication à travers la succession d'informations, à la fois médiatiques et sur les réseaux sociaux, fait le reste.
Et le phénomène s'auto-alimente jusqu'à ce qu'il finisse par s'épuiser tout seul.
Espérons qu'il s'épuise vite, effectivement.
RTL, sous les radars.
Effectivement, on va défaire l'info passée sous les radars. Je dis beaucoup effectivement.
Ouais. Effectivement. Avec, alors tenez-vous bien là, un séisme pour la Suisse, mais aussi et surtout pour les amateurs de chocolat, Laurent.
Oui, le Toblerone, la célèbre barre chocolatée au nougat en forme de triangle, oui, reconnaissable au premier coup d'œil, distribuée dans le monde entier, ne sera plus produite exclusivement en Suisse. Oh. C'était pourtant le cas depuis, attendez, plus de 100 ans. Oh là Toutes là. Les barres de Toblerone sortaient d'une seule usine à Berne. Mais dès l'an prochain, ce sera terminé. Le Toblerone sera aussi fabriqué en Slovaquie, à Bratislava. Et la décision a été annoncée en début de semaine aux employés par le groupe américain qui possède la marque. Une décision prise pour des raisons économiques. Les salaires sont moins élevés qu'en Suisse.
Mais alors, ça change vraiment quelque chose?
quelque chose ?
Bah, sur l'étiquette, oui, puisqu'en déplaçant une partie de la production, le Toblerone ne pourrait plus se vendre avec le label Chocolat au lait suisse. Ah. Et chez nos voisins, il faut que toutes les étapes de production soient réalisées dans le pays pour en bénéficier.
Terrible.
C'est fou, ça. Ouais.
Et c'est le Cervin qui est représenté, c'est pour ça que c'est en triangle.
Ouais, le Cervin.
Comme la montagne suisse célèbre.
Ouais.
Oh là, vous glissez des infos pour briller avant même les infos pour briller.
Ouais, c'est là que je l'avais, c'est pour
ça. Incroyable.
Je l'avais sous le coude.
Merci Laurent, merci Cyprien. Petite pause, on continue de défaire le monde ensuite dans RTL Soir avec la première info
la deuxième,
pour briller.
Du coup.
Du coup, la deuxième info
si
pour briller.
Il y a une
concurrence ce soir.
Effectivement, deuxième info pour briller au dîner.
Aïe, elle est terrible, ça va être dur aujourd'hui, hein, vous le dire. Elle est très remontée.
Mettez une pièce, si vous le voulez. Et à bord des trains lorsqu'on voyage aussi. Voilà, vous allez pouvoir briller partout.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller. Dans On défait le monde.
18h48, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et donc voici une nouvelle info pour briller au dîner.
La SNCF va rajouter des trains pour l'été, vous en parliez tout à l'heure.
C'est possible.
À rajouter, exactement.
Soyons précis. Et un événement qui a éveillé votre curiosité, Laurent, avec cette question. Alors tenez-vous bien. Pourquoi les trains roulent à gauche? Bah oui, parce que les trains roulent à gauche, figurez-vous.
Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Pourquoi ils roulent à gauche?
Eh bien, je vais vous le dire. Lors de l'arrivée du chemin de fer en France, on est au début du 19e siècle, les ingénieurs français s'étaient inspirés des Britanniques, pionniers dans le domaine. Vous allez me dire, bon, pour les conducteurs, à gauche ou à droite, peu importe. Eh bien non, ce sens de circulation permettait aux cheminots, beaucoup plus nombreux à être droitiers, de sortir la tête de la locomotive côté gauche pour réaliser des manœuvres avec la main droite. Vous avez l'image ? Aujourd'hui, évidemment,
il fait le geste hein, pour ceux qui nous regardent sur Internet.
Aujourd'hui, évidemment, on n'a plus besoin de se pencher, mais le sens a été conservé. Et il existe tout de même des exceptions en France. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, des départements annexés par l'Allemagne, en 1870, on roule à droite. Là, vous dites, mais c'est quoi ce bazar?
Mais comment ils font quand ils changent de département, les trains?
Quand ces départements sont redevenus français, rien n'a changé. Le chantier pour faire les changements était trop cher. Donc, on a installé ce qu'on appelle, comme dispositif, les sauts de mouton qui permettent de basculer à gauche à la sortie des départements.
Ah, c'est passionnant.
Donc, vous imaginez le bazar quand même.
Génial, super info.
Il a fallu être ingénieux.
Bon, Céline, vous avez perdu.
Pas encore.
J'ai pas dit mon dernier mot,
Peggy. Pas encore, mais c'est mal parti.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Et avec Céline, grande latérale droite, à une époque plus jeune, quand elle jouait au football, on va parler ballon rond ce soir, parce qu'elle a trouvé de sacrés losers du jour aujourd'hui.
Oui, des footballeurs, notamment un, qui a réussi à se blesser sans même entrer sur le terrain, Céline.
Oui, je voulais vous parler du
phénomène Lucas Paqueta, ça ne vous aura pas échappé, il a encore été excellent hier.
Ah non, ça ne vous a pas échappé. Paqueta, le footballeur de l'Olympique Lyonnais qui a profité de ses vacances pour s'adonner à une autre passion.
Le cerf-volant, un sport soumis aux caprices du ciel, dont les Français sont les maîtres.
Alors les Français peut-être, mais pas Lucas Paqueta. Brésilien, Lucas, pas français, et du coup, bah...
Aïe,
il s'est coupé le doigt, au point de devoir subir une petite intervention chirurgicale. On ne rappellera jamais assez les dangers du cerf-volant, soyez prudents. Lucas Paqueta, qui a rejoint ainsi le 11 des meilleurs blessés du foot, même si côté coupure, un homme semble indétrônable, Santiago Canizares, gardien de but de l'équipe d'Espagne, c'était en 2002, à quelques jours du Mondial.
Me llevaban el mejor momento de mi carrera. C'est l'unico campeonato que yo me sentí que podía ser titular.
Il le dit lui-même, il était au meilleur moment de sa carrière. Pour la première fois, il pensait pouvoir disputer un championnat du monde en tant que titulaire. Mais pendant le stage de préparation, alors qu'il veut se parfumer... Le flacon tombe. Et appelle le docteur qui lui dit qu'il jouera pas le mondial. Tendon sectionné.
Ça, c'est un peu le réflexe. On met le pied. C'est complètement débile comme réflexe.
Ça lui a coûté cher. Hein. Mais bon, chez nous aussi, on a un petit niveau. Euro 2004, le Marseillais Steve Marley, Cyprien, est appelé chez les Bleus. Très heureux, Steve Marley. Trop, peut-être, de tenir son accréditation, si bien qu'à force de jouer avec l'élastique. Il lui revient dans l'œil. L'accréditation lui revient dans l'œil, cornet déchiré et un euro sur le banc.
Ah, c'est terrible.
Enfin, comment oublier Johan Gourcuff, qui n'a pas été épargné, on le sait, par les blessures tout au long de sa carrière. Et même en dehors du terrain, il s'était fait une entorse de la cheville en promenant son chien. Comme quoi le danger pour le footballeur, c'est pas toujours le tacle glissé.
Aïe.
Il est bon celui-là.
Et il y a Arthur Asquin dans le couloir qui me parlait juste avant qu'on rentre en studio aussi de Letizy, le gardien du PSG, qui s'était blessé au dos en jouant au Scrabble.
En ramassant une pièce de Scrabble.
Ouais,
c'était quoi,
ramassant une pièce de Scrabble.
Non.
C'est
Scrabble, c'est dangereux.
Ah ben oui.
C'est pour ça que je joue jamais au Scrabble. Petite pause, dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. Et on va briller avec Zizou.
Julien Cellier, Cyprien Sini
ont défait le monde.
L'info pour briller dans On défait le monde.
18h55, on défait encore et toujours le monde dans RTL Soir avec une nouvelle info pour briller tout à l'heure au dîner.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Zizou, 50 ans. Et alors, que vous croyez déjà tout savoir sur Zizou, sur l'icône, vous croyez tout savoir, Céline a décidé de nous surprendre encore un peu.
Oui, vous connaissez peut-être son palmarès, hein, champion du monde, d'Europe avec les Bleus, champion d'Italie, d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Zidane a aussi gagné une Clio. Une Clio rouge, pour être très précis. C'était en 91, le président de la SCAN lui avait promis une voiture pour son premier but en D1. Et le 10 février 91, bon, c'était face à Nantes.
En seconde période, c'est tout d'abord Zidane qui, grâce à un petit exploit technique, trompe Marot.
En fait, c'est une passe de Durix qui me la met dans l'axe. Et je la reprends, en fait, avec l'extérieur. Je me la soulève pour qu'elle rebombe. David Marot était le gardien de Nantes à l'époque. Il est un peu avancé, mais j'arrive à le lober. Puis en plus, c'est quelque part, c'est un beau but, quoi. C'est pas un but de raccro, quoi.
Ah ouais, pas un but de raccro pour Zizou. Et son président tient parole, il lui offre une Clio.
Elle a tout d'une grande.
Comme le joueur.
Ouais, effectivement.
Oh, David Marot. Quel jeu de mots habile.
David Marot, ça vous rappelle des souvenirs, vous, les supporters des Canaries, là.
C'était pas mal, hein.
C'était Eric Lussouarn, son remplaçant.
Oui, Dominique Casagrande aussi.
Dominique Casagrande.
C'était un trio des gardiens. Quand on a été champion de France.
Ouais. Et Franck Durix fait la passe.
Franck Durix, formidable, à l'ESCAN.
À l'ESCAN pour Zidane.
Stade de la Boca, c'est mon premier déplacement avec les Ultra Marseille. C'était un coupe-gorge, ce stade de la Boca.
Adrien Kozniku en pointe. Bref, des souvenirs d'enfance. On avait beaucoup trop de vignettes Panini. Point égalité, parce que franchement, les trains qui roulent à la Britannique, là, c'était absolument formidable. Et j'adore Zizou, donc un partout ce soir. Ça vous va?
Vous avez dit, Peggy, que j'avais pas perdu. Bravo, Céline.
Marche ou rêve?
Allez, marche ou rêve, tous les soirs, vos idées les plus folles au bout du fil.
Et nous sommes jeudi, comme tous les jeudis.
Viens, viens sur la montagne.
C'est jeudi sport. C'est jeudi sport, la montagne, vous allez voir, vous allez comprendre. On parle de vos défis les plus fous, les plus improbables. Et de la mer à la montagne, il n'y a qu'un pas, Laurent.
Oui, l'année dernière, nous avions suivi l'aventure de Maxime Sorel sur le Vendée Globe, l'Everest des mers. Et aujourd'hui, le skipper veut s'attaquer à l'Everest, tout court, le plus haut sommet de l'Himalaya. Il l'a annoncé dans une vidéo.
Une aventure que je souhaite partager pour dire qu'il faut croire en ses rêves les plus fous. Et tout mettre en œuvre pour les réaliser. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je ne sais pas si je suis mentalement et physiquement capable. Là-haut, c'est le toit du monde qu'on ira gravir ensemble. L'Everest.
Bonsoir Maxime.
Bonsoir à tous.
Alors forcément, ça surprend. Comment vous est venu ce nouveau défi?
Eh ben, je me suis dit en fait que après un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, sans assistance, je suis en fait parrain national de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et je me suis dit que ça serait vraiment génial d'aller sur le toit du monde, l'Everest, là où on est en difficulté de capacité respiratoire, là où on n'a plus que 35% de capacité respiratoire, et c'est ce qu'est un patient en attente de greffe. Et donc je serais encore plus légitime à parler et à comprendre ce que vivent les patients pour leur donner tout mon soutien et essayer de trouver une solution pour vaincre cette maladie.
Et donc l'ascension de l'Everest, elle est prévue pour avril-mai 2023. Vous avez une préparation prévue avec des objectifs?
Ouais, alors ça reste une tentative. C'est une tentative effectivement qui sera faite en 2023 entre les deux Everest des mers, donc 2020 qu'on a déjà réalisé, puis l'objectif avec un nouveau bateau VNB Mont Vanna Mayenne en 2024. Et donc j'ai une préparation qui a démarré il y a 2 ans et demi environ. Et donc la préparation, c'est surtout la découverte un peu du milieu et des terrains un peu accidentés, marcher avec des crampons, utiliser tout le matériel que je vais pouvoir utiliser pendant cette ascension. Ça reste une tentative, c'est-à-dire que comme au départ du Vendée Globe, il y a un bateau sur deux qui abandonne. On met tout en œuvre pour y arriver, mais on n'est pas certain. Nous, on a prévu 60 jours pour faire l'ascension de l'Everest avec beaucoup de temps passé au camp de base.
L'an dernier, vous nous aviez dit qu'il y avait 5 fois plus de gens qui étaient allés dans l'espace que de personnes qui avaient réussi à boucler un Vendée Globe. Une fois que vous serez allé sur le toit du monde, si vous y arrivez, évidemment, mais nous, on a confiance. L'objectif, c'est quoi? Comment on fait pour aller encore plus loin après?
Dans l'espace.
Ouais, il y a plein de choses. chose. C'est vrai que j'ai soif d'aventure en permanence. Je vis à 100 à l'heure. Oui, effectivement, j'ai déjà fait l'Everest des mers à moins de 35 ans, donc c'était jeune. Je sais pas, moi j'adore le sport mécanique, le sport auto, alors pourquoi pas les 24 heures du Mans, j'en sais rien, ou Paris-Dakar.
Après l'Everest des mers, l'Everest, la montagne, la nouvelle aventure de Maxime Sorel pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Bonne préparation Maxime, bon courage.
Bah merci, à très vite.
Et on vous suit, hein. À très vite Maxime.
Au revoir.
Au revoir et au revoir aussi les amis dans Défait le Monde. Demain 18h40 comme chaque vendredi on refera nos
régions.